Audio guide cascade de Yeguaméa et source Manapites. Des changements du niveau de la mer ont eu lieu tout au long de l'histoire de la Terre, dus à des processus géologiques divers qui situent notre région tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de la mer. La preuve, les différents types de matériaux que l'on va trouver sous nos pieds. Les roches prédominantes dans le géoparc sont les calcaires et les marnes, conséquence des sédiments carbonatés déposés dans le fond des mers chaudes qui occupaient notre territoire il y a 90 millions d'années environ. Les mouvements tectoniques de la Terre et la force de l'eau les ont formés avec le temps, entraînant deux types de reliefs caractéristiques, les synclinales perchées ou loras, formées de grands plis comme ceux des monts rocheux Ulania, Amaya et Castro, et le relief karstique produit par l'érosion et la dissolution, comme par exemple le puits des Aceites, les sources Manapites et la cascade de Yeguaméa. 1. L'itinéraire commence devant l'église du village Fuente Odra, dont le nom fait allusion à la naissance de la rivière Odra dans les environs. On peut y voir une série de matériaux, sable, conglomérats et argiles, déposés par les grands fleuves qui sillonnaient le géoparc durant le Crétacé, il y a plus de 100 millions d'années. La taille des matériaux déposés dépend de la force du courant de l'eau à chaque moment. De cette manière, on trouve des argiles de couleur grise si le courant est doux, des grès de couleur blanc-jaunâtre si la force augmente, et enfin des conglomérats aux grains plus gros qui apparaissent comme des fragments arrondis de roches claires imbibées dans une matrice ocre. 2. Au début du Crétacé supérieur, il y a 95 millions d'années, la mer envahit progressivement la région et enterre petit à petit les fleuves et les matériaux déposés. C'est à partir de ce moment que la sédimentation marine des boues carbonatées commence. De nombreux organismes marins y habitaient et s'alimentaient, laissant la trace de leur activité en forme fossile que l'on peut observer aujourd'hui sur la roche calcaire. Le phénomène par lequel la mer envahit le continent est connu comme transgression marine, comme en témoigne le changement des matériaux, des conglomérats et des sables que l'on avait observés au cours de la halte précédente, aux roches calcaires que l'on observe actuellement. Sur les murs, on peut trouver de petites marques jaune-orange appelées bioturbations. Ce sont des altérations des sédiments produits par l'action des êtres vivants qui habitaient les boues des fonds océaniques il y a 95 millions d'années. Il s'agit normalement de galeries d'un diamètre d'1 à 2 cm. Il est fréquent que les organismes sécrètent du mucus, ce qui durcit les murs et évite qu'ils se détériorent. Par la suite, les galeries abandonnées sont remplies de matériaux différents qui leur donnent cet aspect-là. 3. Lorsque la Terre se retire à nouveau, à la fin du Crétacé, les matériaux se plient et s'érodent à cause de l'activité géologique formant des plateformes inclinées appelées côtes structurelles. Pendant la période océanique, des calcaires et des marnes se sont déposés petit à petit en alternance, les calcaires étant plus résistants à l'érosion. Plus tard, durant l'autogénèse alpine, il y a 35 millions d'années environ, les matériaux déposés subissent de grands plis et une érosion ultérieure. Comme les marnes sont moins dures, l'usure est plus forte, de sorte que les strates calcaires plus dures sont remarquées comme plateformes inclinées appelées côtes structurelles. Depuis cet endroit, on peut regarder la cascade de Yeguaméa. Si l'on observe les arbres qui poussent à droite de la cascade, on remarquera que dans les zones basses au sol acide, formées sur de petits matériaux siliceux, sable et argile, et des conditions climatiques plus douces, se développent des forêts d'une sorte de chêne connue dans la région comme Rebollo, Quercus pyrenaica, aux feuilles lobées et mollement veloutées. Plus haut, sur la calcaire et les marnes, où se développent des sols basiques, le chêne prédominant est le chêne faginé, Quercus faginea, dont les feuilles présentent un bord un peu dentelé et parfois pointé. 4. Puits de l'os Aceites. L'eau superficielle, en passant, modélise le rocher et avant de tomber dans le puits, elle creuse une petite fente dans le calcaire. Il convient de remarquer la quantité d'eau infiltrée et accumulée dans les calcaires et les grès du géoparc. Plus de 10 millions de mètres cubes, c'est-à-dire bien plus que le volume des barrages superficiels du bassin du Duero, l'un des fleuves les plus importants de la péninsule ibérique. Le relief karstique est caractérisé par des processus de dissolution du calcaire, mais l'eau n'est pas capable par elle-même d'éroder le carbonate de calcium qui forme la roche calcaire. L'origine des formations typiques du relief karstique est dans la carbonatation. C'est un type de dissolution qui a lieu quand le dioxyde de carbone de l'atmosphère réagit avec l'eau, formant l'acide carbonique qui finalement réagit avec le calcaire et le dissout. Le nom de ce puits est dû à la couleur vert huileux que prend l'eau dans son fond. En chemin vers l'arrêt suivant, tout en observant très attentivement le sol, nous pourrons voir des empreintes en forme de cheval dues à l'activité d'êtres vivants. Ce sont des galeries creusées par un certain genre d'invertébrés marins. Sa forme a inspiré des légendes comme celle qui raconte que l'apôtre Santiago mit fin à la vie d'un grand serpent qui vivait dans le puits de la basse-cour, notre prochaine étape. Selon cette légende, les empreintes que nous voyons correspondent aux marques laissées par son cheval. 5. L'endroit où nous nous trouvons s'appelle le puits de la basse-cour. On observe des cannelures au sol formées par dissolution qu'on appelle lapiase ou lapier, en plus des plantes répicoles qui poussent dans les roches. Le lapiase ou lapier est un ensemble de ciselures superficielles générées par l'action du ruissellement dans les roches calcaires. Il compose un des éléments géomorphologiques du relief karstique. Une autre formation caractéristique est le relief ruiniforme qui donne lieu à des formes capricieuses de roches calcaires ressemblant à des constructions en ruines comme celles que nous pouvons trouver à la Strachez avec de multiples ruelles, cavités et tunnels. Malgré le fait que ce soit des plantes avec très peu de nutriments, on peut observer des plantes rupicoles poussant dans les cassures. Ce type de plante est adapté aux conditions climatiques extrêmes et à un sol peu développé. La plus abondante dans cet endroit est la Ramus pumila, arbuste caducifolié non épineux avec des branches tortueuses et collées à la roche à laquelle elle reste attachée. Ses feuilles sont ovalaires ou elliptiques, ses fleurs de couleur verdâtre et ses fruits sont noirâtres ou rougeâtres quand ils mûrissent. 6. Le nom de source Manapites se doit au fait que l'eau jaillit avec une telle force qu'elle déplace continuellement les pierres et les polis. Dans sa chute, elle se précipite dans le puits de la Hoya. La source Manapites est une remontée d'eau intermittente. En allant vers le point suivant, la cascade de Yeguamea, l'eau coule dans un lit où l'on trouve une végétation caractéristique sur la rive. Frênes, peupliers, saules, parmi lesquels on remarque le Salix cantabrica, arbuste qui peut atteindre les 3 mètres de hauteur, avec des branches sombres, des feuilles oblongues et pointues, caractérisées par son incapacité à résister aux crues. 7. Cascade de Yeguamea. À l'époque du dégel ou de pluies intenses, l'eau s'infiltre dans le haut du rocher et en sort en formant la cascade de Yeguamea. De chaque côté surgissent deux petites cascades appelées Los Potrillos. Notre chemin passe par ces jaillissements-là. Les jaillissements sont typiques du relief karstique. L'eau de pluie s'infiltre dans les zones élevées par les failles des roches calcaires. Elle forme à l'intérieur des rivières souterraines qui les dissolvent en formant des grottes et des galeries. Quand l'eau jaillit à l'extérieur, elle crée des sources comme la source Manapites ou des cascades comme dans le cas présent, façonnant un paysage de grande beauté. De retour, on peut contempler trois des loras les plus importantes du géoparc, à gauche, Peña Ulania, à droite, Peña Amaya et Peña Castro, entre lesquelles se découpe l'église du village. Les loras sont les synclinaux perchés, une sorte de structure géologique qui donne le nom à notre géoparc. Il s'agit de grandes élévations étroites et allongées. La partie supérieure se présente comme un plateau calcaire dont les matériaux appartiennent au Crétacé supérieur. Ces élévations ont leurs origines dans les remplissements et la transformation alpine d'il y a 35 millions d'années et dans l'érosion postérieure intense qui fit disparaître les zones structurellement plus élevées. Les plis anticlinaux en forme de A. De cette façon, les zones structurellement plus basses, les plis inclinaux en forme d'U, se voyant moins infectées par l'érosion, sont restées étonnamment plus élevées que les terrains alentour. C'est pourquoi on les connaît sous le nom de synclinaux perchés. Ce genre de relief est aussi appelé relief inversé.